notre envoyé spécial, le podcast des grands reportages de l'équipe. Saison 3, épisode 4, le coup de fil de Marie-Jo Pérec avec Jérôme Bureau. Quand en 2000, la triple championne olympique appela l'équipe après avoir fui Sydney.
On commence par apprendre par son entraîneur qu'il se passe quelque chose, quoi. Et puis arrive la nouvelle par les Australiens et par les médias australiens et les agences qu'elle est à l'aéroport et qu'elle va prendre l'avion. Et dans un premier temps, tout ça paraît un peu surréaliste, quoi. On arrive au moment où elle va rentrer en compétition, hein, vraiment à quelques heures, quoi. Donc il se passe un petit moment de flottement entre le moment où elle décide de partir et le moment où on se rend compte qu'elle est en train de quitter les Jeux. Et puis ensuite, en fait, le moment où tout d'un coup on se dit « bon, ça y est, elle est partie, il y a un souci », c'est quelques heures plus tard quand elle est à Singapour, quoi.
Je suis Clémentine Blondet, journaliste à l'équipe. Dans De notre envoyé spécial, un grand reporter de l'équipe, ancien ou actuel, raconte un reportage qui l'a particulièrement marqué. Et pour cette troisième saison, je vous propose de revivre des événements olympiques de Moscou 1980 à Tokyo en 2021.
Mesdames et messieurs, bienvenue à Sydney pour les Jeux de la 27e Olympiade.
Ladies and gentlemen, welcome to the Sydney 2000 Games of the 27th Olympiad.
Le 20 septembre 2000, Jérôme Bureau, alors directeur de la rédaction de l'équipe et envoyé spécial à Sydney pour suivre les Jeux Olympiques, découvre comme le monde entier que Marie-Jo Pérec ne participera pas aux 400 mètres. La triple championne olympique aurait été agressée à son hôtel et a décidé de quitter Sydney avec son compagnon Antoine Maybank. Le couple est même entendu plusieurs heures par la police à Singapour, où Maybank a violenté un caméraman avant d'embarquer enfin pour Paris.
Au début, on court derrière des témoins, tout ça. Alors, on commence à chercher des traces de ce fameux livreur qui l'aurait agressé. Il y a rien, il y a aucune. Les caméras de vidéosurveillance montrent rien. Il y a aucune. Les flics disent, mais on n'a rien. Il n'y a pas eu la moindre plainte, pas le moindre écho. Donc, le 400 mètres commence et elle n'est pas là, quoi. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il y a aussi ça. Il y a le 400 mètres où elle est. Au départ, elle clouerait vite, quoi. Bon, là. Ok, ça y est, c'est sûr, c'est bien qu'elle est partie, quoi. C'est pas un truc qu'elle s'est montée, elle est pas revenue, elle est pas juste allée, à, je sais pas quoi, à Melbourne pour être un peu plus au calme et revenue. Bon, elle a bien pris un avion, mais bon, une fois qu'il y a eu l'épisode de Singapour, on avait tous compris, quoi. Et puis bon, on se dit, bon, il faudra qu'elle s'explique un jour. Moi, à ce moment-là, franchement, je m'imagine pas qu'elle va m'appeler comme ça aussi vite, quoi. La connaissant. Je me dis, bon, bah, je sais pas, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, tout d'un coup, le téléphone va sonner.
Le téléphone sonne, finalement, quelques jours seulement après le retour de Marie-Jo Pérec à Paris le mercredi 27 septembre. Jérôme Bureau pense quelques secondes à un canular, mais comprend vite que c'est bien l'athlète qui est au bout du fil.
Je n'étais pas préparée à ça. Je me rendais même pas compte que cette course, en fait, c'était la plus importante des Jeux, quoi. Et en fait, tout ça m'a éclaté au visage et j'ai explosé en vol.
Parce que c'est après la soirée d'athlétisme. J'ai fini le papier que j'ai fait sur je sais pas quoi ce soir-là. On va remballer et rentrer à l'hôtel. Prendre le bus, rentrer à l'hôtel. Le téléphone sonne, c'est Marie-Jo. Je vais dans le couloir pour rester, en me disant je vais être un peu tranquille. Elle me dit ah, faudrait te voir pour qu'on discute. Bon, je lui dis ben là je suis en Australie, c'est pas tout de suite, je vais pas rentrer, je vais pas prendre l'avion et m'arrêter à Singapour pour faire une interview. Donc je comprends qu'elle est à Paris. Et puis bon, finalement on commence à parler, voilà. Dans un premier temps on commence à parler sans que j'ai rien pour noter. Évidemment au bout d'un quart d'heure. Je reviens au bureau, je récupère un bloc, parce que sinon, je me dis, tout ça va se perdre, et ça dure ça dure longtemps, quoi. Ça dure longtemps, avec des silences, des... Oui, je la sens... une sorte de désarroi incroyable, quoi. Perdu, quoi. Perdu. En même temps, elle dit des choses tout à fait intelligibles et je la sens perdue et... Je ne saurais pas dire combien de temps ça dure, mais je ne sais pas, 40 minutes, 50 minutes, le temps d'une longue interview, quoi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a appelé. Je ne sais pas, ça ne lui plaît pas d'être partie, quoi. Donc elle a besoin de s'expliquer, quoi. Elle a besoin de le dire et qu'on lui pardonne ou qu'on la comprenne ou qu'elle s'installe à ce moment-là dans cette espèce de... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une parano, quoi, mais espèce de situation où elle a été harcelée, agressée, elle a été obligée de partir, où elle se sentait en danger. Ce qu'aucun d'entre nous ne comprend à l'époque et comprend encore moins aujourd'hui. Donc, mais elle a besoin de ça. Donc je me retrouve avec ce truc-là. Alors. Il est 2h du matin à Sydney, mais heureusement, il est 4h de l'après-midi à Paris. Donc, c'est encore bon pour le journal du lendemain. Enfin, c'est bon pour tout le monde, sauf pour moi, parce que j'ai fini de taper le papier à 6h ou 7h du mat. Donc, la nuit a été un peu rude, mais ça compte pas.
L'interview fait la une de l'Équipe du 28 septembre 2000 avec ces mots de Marie-Josée Pérec, « Je suis anéantie ». Elle raconte s'être sentie suivie et menacée depuis son arrivée en Australie le 8 septembre et affirme, bouleversée, que c'est la peur qui l'a poussée à faire ses valises.
Donc on passe à autre chose avec cette interview, quoi. Parce que tout le monde la reprend, évidemment. Vous ne pouvez pas y imaginer le lendemain matin. Donc moi, il est 6h du matin quand je termine, donc il doit être 10h du soir à Paris. Donc c'est parfait pour le bouclage, c'est pas du tout parfait pour la qualité de ma journée qui va suivre. J'arrive dans la matinée au centre de presse. Et là, c'est comme s'il y avait la queue devant le bureau de l'Équipe de tous les confrères étrangers qui veulent savoir elle est où, comment tu l'as eue, comment elle va, qu'est-ce que tu n'as pas écrit dans l'interview. Forcément, parce que cette affaire était une affaire qui ne concerne pas que la presse française. Alors bon, je n'ai pas grand-chose à leur dire de plus que ce qu'il y a dans l'interview, parce que je pense que j'ai tout mis. Voilà. Et surtout pas à leur dire de qu'est-ce qu'elle va faire, où est-ce qu'elle est. Je dis voilà, elle est à Paris et clairement, je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire et... Tout est possible, ce qui a été le cas. Très vite, elle part aux États-Unis avec Antoine. Ils partent s'installer dans un coin un peu où on n'aura pas de nouvelles d'eux pendant 2 ans. Quoi.
Voilà, le moment historique est arrivé. Cathy Freeman est en piste en finale du 400 mètres. Cathy Freeman qui s'était lancée à la poursuite et a été sélectionnée. Cathy Freeman qui passe maintenant. Ça y est, Cathy Freeman va être championne olympique ici à Sydney. Cathy Freeman réconcilie le peuple aborigène avec l'Australie.
Le 25 septembre, Cathy Freeman est devenue championne olympique du 400 mètres. L'Australienne aborigène qui avait allumé la vasque lors de la cérémonie d'ouverture a assumé son statut de favorite et d'héroïne nationale. En l'absence de Marie-Josée Pérec. On ne saura jamais si la Française aurait pu s'imposer, mais après une mononucléose et une longue absence, elle semblait être de retour pour de bon.
Malgré ces 2 ans sans courir, malgré ce peu de courses, voilà, elle est une possible médaille olympique, voire pourquoi pas une possible rivale de Freeman. Donc on se dit, ben voilà, elle va faire 2 derrière Freeman et ça va être magnifique et ça va être... Le podium de ces Jeux, mais sur ce podium, il y aura Marie-Jo Pérec. Et puis, on sera content de la voir avec une médaille, qu'elle ait repris le fil de sa vie, que cette période des blessures soit éliminée. Et puis, c'est une fin de carrière magnifique, quoi, même si ce n'est pas une médaille d'or.
Tonight, we welcome the world's greatest athletes and their supporters to Sydney, Australia. To support all of you, wherever you have come from. Australians love sport, and we admire outstanding skill and courage. You are the stars of this show. This is your time. Enjoy it!
Si les choses se sont passées autrement, c'est sans doute d'abord parce que la star française a débarqué au pays de Cathy Freeman avec comme seul entourage son entraîneur, Wolfgang Meyer, l'ancien mentor de la record woman du monde, Marita Kaur, et son compagnon, Antoine Maybank. C'est Gilles Navarro, le journaliste qui la suit alors pour l'équipe, qui l'aide à trouver un logement sur place.
Elle était un peu toute seule au jeu, puisqu'elle est avec Antoine Mébang, qui est son compagnon de l'époque, qui n'est pas le mec le plus charismatique et envahissant du monde. Hein. C'est un peu Marie-Jo, à ce moment-là, qui décide de tout, et lui, il suit. Lui, c'était un athlète de bon niveau, mais évidemment pas du niveau de Marie-Jo. Elle a essayé de le faire accréditer, et les Français n'ont pas voulu, ce qui est une erreur, parce que ça aurait permis d'intégrer Marie-Jo et de la prendre un peu sous leur aile. Il y a Meyer, son entraîneur, mais qui est un peu un vieux monsieur, qui fait une dernière pige aussi, sans doute, parce que ça lui permettra un peu d'apparaître comme autre chose que l'entraîneur de Marita Koch, quoi. Alors, il y a plein de choses qui se mélangent. Le mur est tombé. Lui, pour lui, c'est une chance, mais en même temps, il n'est plus vraiment entraîneur. Enfin, il n'y a pas vraiment quelqu'un en charge de Marie-Jo, quoi. Elle est que elle-même en charge de Marie-Jo, quoi. Et clairement, elle n'a pas la force de se gérer. Et on le savait sur les expériences précédentes, puisqu'à chaque fois, elle a eu, même quand elle va gagner à chaque fois, des coups de blues, des moments où elle ne veut pas y aller, sans parler de « je vomis avant chaque course », etc., etc. Mais enfin, cette espèce de tout d'un coup de trou noir qu'elle connaît avant les grandes compétitions, elle l'a connu aussi au moment où elle a gagné précédemment, en 91, en 92, en 96. Donc il aurait fallu faire attention à ça dans l'encadrement de l'équipe de France et de la Fédération d'athlétisme. Mais là, elle est toute seule. Personne ne le voit venir, du coup. Quoi. Personne ne voit venir le problème. Quoi. Gilles Navarro s'est quand même mis à chercher des apparts pour essayer de... parce qu'elle ne savait pas comment faire, pour essayer de lui trouver un endroit où elle soit bien, pas loin d'un stade. On est quand même... C'est la triple championne olympique. Il n'y en a qu'une dans l'histoire du sport français. Enfin, il y a Félicia Ballanger en vélo, mais... ouais, dans l'histoire de l'athlétisme, il n'y en a qu'une. Il y en aura sans doute peut-être qu'une dans un siècle encore. Et on la laisse toute seule à 12 jours de son retour aux Jeux Olympiques. Quoi. Et c'est un journaliste de l'équipe qui s'occupe d'essayer de lui trouver un appart. On lui trouve quelque chose par un confrère australien. Mais c'est un peu loin d'un... C'est pour ça qu'avec Mébank et Meyer, ils se retournent vers cette espèce de résidence hôtelière à côté de l'hôtel où, justement, on était logé. Mais ça veut dire que là, elle n'est pas dans des conditions où on s'occupe d'elle pour la mettre dans les meilleures conditions possibles pour un exploit. Et puis, bon, bah, la presse australienne, tous les jours, parle de Freeman. Donc, tous les jours, explique pourquoi Perec va perdre, pourquoi Freeman est formidable, bon... Et elle se prend ça, forcément ça existe, ce serait une épreuve un peu... Elle serait contre une Russe et une Kenyane comme adversaire dans sa finale, la presse australienne n'aurait pas dit un mot du 400 mètres féminin, voilà, elle aurait été peinard et personne ne se serait occupé d'elle. Pas de chance, voilà, elle est face à l'icône nationale de ces Jeux.
Cathy Freeman, our Cathy, as they call her.
And the appearance of Australia's beloved Cathy Freeman. The headline in the paper today Cathy Freeman, said the race of Aboriginal descent, has become a symbol of reconciliation for her nation and her people.
Not only is it a much anticipated race, but
marginalized,
she was the person
minority.
Who lit the Olympic flame at opening
After
ceremony.
Months of being the most talked about athlete thoughts. In Australia, Betty in less than 1 minute, it will all be over.
Là, il n'y avait plus rien pour la rassurer. Ben, quand on a peur, on se met voilà, la peur est mauvaise conseillère. Et en l'occurrence, voilà, ça l'a amené vers cette espèce de blackout complet.
Nothing had stopped the nation in my lifetime like this race. And I think so many Australians had a personal interest in this race. It was personal. It was us, it was our nation, it was our, I guess, us presenting ourselves to the rest of the world through this one woman.
L'athlétisme français repartira de Sydney sans aucune médaille. La fédération et son DTN, Richard Descoux, n'ont été que spectateurs du mal-être, puis du départ de Marie-Josée Perec.
Ben, Descoux et la DTN, ils ont été en dessous de tout à Sydney. Quoi. En dessous de tout. Quoi. Et comme si ça les emmerdait que Marie-Jo soit là, quoi. Effectivement, selon les critères administratifs normaux, un compagnon, en plus américain, mais il aurait été français, c'était pareil, un entraîneur étranger qui n'est pas un entraîneur national, passé par la filière, machin chose. Bon. Tout ça, ça ne s'accrédite pas, ça se... Et donc, ben, qu'elle se débrouille, quoi. Voilà. Ils l'ont laissé tomber, ils l'ont laissé tomber. Voilà. Et c'est tombé, en plus, parmi les athlètes, elle commençait, bon, les années étaient passées, il y avait le rôle toujours important de ses copines, ça jouait un rôle, quoi. Ça la sécurisait, il y en a qui avaient arrêté, il y avait une nouvelle génération qui arrivait, il y avait de la jalousie vis-à-vis d'elle, ce qui est quand même absurde. Donc, l'athlétisme français l'a laissé se démerder tout seul, quoi. Clairement, quoi. Et ça joue un rôle non négligeable dans cette affaire, quoi.
Le rôle des journaux, australiens notamment, a lui aussi été important. Mais pour Jérôme Bureau, qui était également aux Jeux de Barcelone et d'Atlanta, les rapports de Marie-Josée Pérec avec les médias ont toujours été complexes.
Et son rapport à la presse, en fait, ça a toujours été une sorte de rapport amour-haine, quoi. Mais l'équipe, ça a été mon cas, le cas de Gilles Navarro, le cas de Jean-Philippe Leclerc, enfin tous ceux qui ont été... qui à un moment ont été un peu les correspondants particuliers de Marie-Jo. On a tous eu des moments où non seulement elle nous adressait peu la parole, mais elle nous roulait dans la farine, voire pire que ça, en conférence de presse. Juste avant de partir à Atlanta, elle nous dit « je vais faire le doublé 200-400, ce que personne ne sait à l'époque ». On le met dans le journal, et dès qu'elle arrive à Atlanta... elle se met en colère en disant « puisque l'équipe l'annonce, je suis bien obligé de le faire ». Voilà, alors que c'est... Voilà, on sait très bien qu'elle nous le dit pour qu'on l'annonce, pour se forcer à le faire, parce qu'elle doute de sa capacité. John Smith veut qu'elle le fasse. Donc il y a toujours eu ce truc-là, d'espèce de... Elle avait besoin de ça, d'être en colère, d'être... d'avoir quelqu'un, quelque chose contre lequel se battre. Alors les médias, c'est toujours dans ces cas-là assez pratique, hein. Vous savez, il y a des stress post-traumatiques. Elle, c'était une espèce de stress pré-olympique, quoi. Il fallait qu'elle soit dans cet état de stress. En même temps, elle en avait besoin, quoi. Elle avait besoin de ça pour trouver cette énergie. Elle n'avait pas... Je ne sais pas, c'était qu'une sorte de ressort intérieur indispensable. Elle croise Gilles et elle lui dit « De toute façon, toi, je ne t'adresse plus la parole. Voilà. » Gilles, qui était devenu un proche, quoi, un ami. 15 jours plus tard, elle réembrassait Gilles. Elle était double championne olympique et tout était oublié. Le truc avait disparu. Il y a plein de champions qui ont besoin de ça. Vous savez, on appelait ça à une époque l'effet Dupont. Pourquoi l'effet Dupont ? Parce qu'il y avait un vieux journaliste de l'équipe, dont le nom était Dupont, et qui avait écrit à un moment un article assez vache sur Alain Mimoun. Et Alain Mimoun tente un record d'Europe ou de France à Saint-Maur un soir, et finit par le battre. Et puis ensuite, il y a un journaliste qui lui dit « Mais on avait l'impression... vous disiez quelque chose là pendant la course et Mimoun répond oui, pendant toute la course j'ai gueulé Dupont est un con, Dupont est un con. » Voilà. Donc en fait, Alain Mimoun, champion olympique du marathon, pour battre un record un soir à Saint-Maur, s'était mis dans la tête qu'il allait montrer à ce comte Dupont, qui était tout sauf un con, que non, il avait tort et qu'il n'était pas foutu et qu'il avait été, voilà. Et donc à un moment, c'était devenu l'effet Dupont, voilà.
Il n'y aura plus d'effet Dupont. Marie-Josée Pérec ne courra plus en compétition, même si elle tente un dernier retour avec l'objectif de participer aux Mondiaux 2003 à Paris. Ce qui ne change rien à la place de la championne dans l'histoire du sport français.
Il reste les images de Barcelone et d'Atlanta, pas les images de Sydney. Celles-là, malheureuses, voilà, c'est des images malheureuses, on peut s'en passer, quoi. Le palmarès, les trois médailles olympiques, les trois médailles d'or olympiques, les deux titres de championne du monde. C'est si fort, quoi. C'est si énorme. Pour une athlète française, ça la met, tout sport confondu, en position quasiment inaccessible de numéro 1, quoi. Donc, quand je repense à Marie-Jo, et pourtant Dieu sait si Sydney, ça m'a touché personnellement, parce que je me suis retrouvé du coup, retrouvé proche d'elle, mais je pense ni à ça, ni à ses scuds à la conférence de presse à Barcelone, je pense à cette ligne droite du 200 mètres, ce qu'elle a fait à Atlanta. Avoir fait ça dans sa vie, ça suffit à être au panthéon du sport, quoi. Le reste, on s'en fout, quoi.
De notre envoyé spécial est une série de podcasts de l'équipe Explore. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la saison 3 consacré aux Jeux Olympiques. Écriture et entretien, Clémentine Blondet. Prise de son, Antoine Bourlon. Réalisation, Legba Prod. Rédaction en chef, Jean-Baptiste René et Imanol Korkostegui.